Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Partie d'Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h avec Rémi Barré, Thierry Moreau, Emmanuel Dancourt et Fred Hermel. Avec vous, bien sûr, au 32-16, vous êtes nombreux déjà à nous appeler pour répondre à cette question. Faut-il avouer une infidélité à son conjoint ou à sa conjointe? Et oui, nous sommes à 6 jours de la Saint-Valentin, les fêtes des amoureux. On parlera donc de couple dans l'émission. Il y aura également vers 14h, 14h30, RMC s'engage pour vous. On tentera avec Amélie Rosic d'aider une jeune footballeuse victime de sexisme, les immanquables également, tout ce qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. On reviendra sur une nouvelle affaire PPDA. Ouais. Rémi, et puis on vous fait gagner des places pour un superbe match de foot cette semaine.
Ce match, c'est le choc PSG-Bayern. Ce sera le 14 février prochain, 8e de finale de la Ligue des Champions. Pour remporter les toutes dernières places grâce à RMC, c'est très simple. Dès que vous entendez ce signal, vous aurez alors 5 minutes pour vous inscrire en envoyant le mot foot par SMS au 732-16, foot par SMS au 732-16. Et cette alerte, elle peut tomber à tout moment au cours de la journée. Donc écoutez bien et restez fidèles à RMC.
RMC, Estelle Midi.
14h04 sur RMC. Nous sommes à J-6 avant la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Et on va s'intéresser à un chiffre qui pourrait bien casser l'ambiance au sein des couples. 46% des hommes, Rémi, des hommes français, admettent avoir déjà été infidèles dans leur vie. Les femmes, elles, bien sûr, sont beaucoup plus sérieuses.
Oui, enfin de très peu. Hein. C'est ce que nous dit l'Observatoire européen de l'infidélité 2022.
Il y a un Observatoire européen de l'infidélité.
C'est très sérieux. L'Observatoire européen de l'infidélité, réalisé par le site de rencontre extra-conjugale Glidden. Bon, oui. C'est un peu orienté. En collaboration avec quand même un institut de sondage sérieux qui
c'est la NASA,
YouGov. Si 46% des hommes français admettent avoir déjà été infidèles au cours de leur vie, tu l'as dit, c'est quand même 38% pour les femmes, je suis désolé. Surtout, la tendance s'inverse. Elle est en baisse pour les hommes. 46% déclarent aujourd'hui avoir été infidèles au cours de leur vie, contre 55% en 2014.
Parce que les hommes mentent plus.
Oui, maintenant. Et en hausse pour les femmes, on est passé de 32% en 2014 à 38% aujourd'hui.
Parce que la parole se libère.
Oui. Et si les Français et les Françaises sont devancés en Europe par les Italiens en termes d'infidélité reconnue, nous passons premier dans l'intention, parce que 31% des hommes français estiment qu'ils pourraient être infidèles, pour ceux qui ne l'ont pas encore été, s'ils étaient sûrs que personne ne soit un jour au courant. Avec ce score, la France, quel que soit le sexe de la personne interrogée, bat à plate couture ses voisins anglais et espagnols qui, eux, ne sont que 17%. Non. Si ça ne se veut qui savait pas, je le ferai. Oui, certainement.
Alors, cette question aujourd'hui dans Estelle Midi. Infidélité, faut-il le dire à son conjoint? Et je vais commencer avec vous, Emmanuel Dancourt, qui avait eu un petit rictus à chaque fois que j'ai évoqué ce sujet dans l'émission.
Du chiffre, je suis sûre que les hommes mentent. On était, moi j'avais vu des chiffres il y a déjà quelques années, on était à plus de 50%. Donc comme le dit très prudemment Rémi, 46% des hommes admettent, mais il y a tous ceux qui admettent pas. Des fois que ça reviendrait aux oreilles de leur femme ou de leur compagne. Oui, c'est ça qui m'a fait marrer, parce que je suis sûre que c'est beaucoup plus. Après, mon avis sur la question, bien sûr. Ne trompez pas votre conjoint, séparez-vous direct, parce qu'à partir du moment où il y a de la tromperie d'un côté ou de l'autre, c'est vraiment qu'il y a un problème dans le couple. Et moi, je suis pour une transparence absolument totale.
Mais on peut avoir un coup de canif un jour.
Ok, il y a un coup de canif dans le contrat, il faut le dire. Moi, je suis pour la transparence totale en couple. Alors, si tu veux que ton couple y dure, jusqu'au bout, il faut dire les choses.
Mais si tu sais, par exemple, ton coup de canif, si tu le dis, eh ben tu sais que derrière c'est foutu, tu le dis pas. Si c'est juste un coup de canif.
Mais pourquoi t'as mis un coup de canif? C'est peut-être que t'es pas totalement à 100% satisfaite de ton partenaire à quelque niveau que ce soit. C'est peut-être que c'est
pour réfléchir plus en amont de ça. Congrès.
À l'occasion.
Ah mais c'est qu'il y a un problème.
C'est pour ça. Moi je suis pour une transparence totale. Dans le couple. Quand bien même t'as mis un coup de canif, très bien. Oui. Qu'est-ce qui t'empêche de le dire, d'en parler,
parce que tu veux
de
pas
lever
la peine.
Le problème? Tu veux pas faire de la peine ou t'as pas le courage de dire les choses,
pas grave. Hein,
parce que si c'est au coup de canif, se renouvelle, c'est bien.
Bah c'est pas là, c'est un coup de couteau, ça coupe ma chaise.
Je viens voir pour ceux qui nous regardent qu'ils ont mis du rose sur le plateau.
Oui, c'est notre petit Saint-Valentin.
Donc voilà, moi je pense qu'il faut être dans la transparence totale et que ça peut, au contraire, réveiller peut-être une libido un peu endormie.
Ça ne m'étonne pas de vous, Emmanuel. Thierry Moreau, vous qui êtes en couple depuis plus de 35 ans.
Pourquoi? Pour moi, il y a deux types d'infidélité. Il y a l'infidélité.
Alors ça, les hommes, ils ont toujours des théories.
C'est intéressant.
Non, mais
c'est
intéressant. Les hommes, ils ont toujours des théories sur l'infidélité.
Il y a des gens qui mènent une double vie. Moi, j'ai connu quelqu'un dans mon entourage proche, il se reconnaîtra, qui passait plusieurs jours par semaine avec son épouse légitime, avec qui il a des enfants, et une journée ou deux par semaine avec sa maîtresse, avec laquelle il a d'ailleurs eu un enfant.
C'est la bigamie, là.
Et je trouve que ça, je trouve ça terrible. D'abord, en termes de gestion, je trouve ça absolument incroyable. Je sais pas comment il faisait. Et surtout, je trouve ça irrespectueux pour tout le monde.
C'est de la trahison totale.
A priori, la maîtresse était au courant, je pense.
Après, il y a le coup de canif dont tu parlais, où un soir, bourré, il y a un accident. Moi, je le dis tout de suite, ça ne m'est pas arrivé parce que je ne bois jamais au point d'être bourré. Je garde toujours le contrôle, je déteste perdre le contrôle. Donc, c'est un truc qui n'existe pas. Mais s'il y a un coup de canif comme ça, il vaut mieux que la personne ne le dise pas. Parce que tout mettre à plat pour un truc de beuverie un soir dans une soirée.
Mais voilà, pourquoi tu ne prends pas ça comme une chance de discuter chance, bien sûr.
On peut discuter de beaucoup d'autres choses.
J'ai quelque chose.
Ton conjoint en face, il n'est pas obligé de s'énerver.
On a beaucoup de chance.
Ton conjoint en face, il n'est pas obligé de s'énerver.
Il est hyper content. Il dit ah, c'est une chance.
Mais non. Mais comme une chance de rediscuter de couple.
Mais tu auras des conjoints qui sont très entiers, qui ne laisseront pas passer ce coup de canif et ils auront raison.
Peut-être raison. Bien sûr.
Fred Hermel n'a pas encore parlé. C'est marrant. Je me sens très en retrait sur cette question. Vous qui d'habitude êtes toujours le premier sur les sujets, et là je vous sens.
Il faut que je vous explique. Je ne suis pas resté assez longtemps avec une personne pour avoir le temps de la tromper. Donc je ne me sens pas très légitime dans le débat.
Oui, mais est-ce qu'à
mes potes.
Toi, tu l'as été.
Est-ce qu'à un moment, tu t'y retrouves avec deux conjoints en même temps?
Non.
Non, alors est-ce que vous avez été l'amant de quelqu'un?
Ah, ça y est, on tient quelque chose.
Oui, ça m'est déjà arrivé, oui, bien sûr.
Ah, ben voilà.
Je suis un vieux célibataire, donc.
Oui.
Mais moi, mes amis hommes et femmes qui ont eu parfois des aventures m'ont toujours dit, surtout ne jamais rien dire. Voilà, surtout parce que ça crée après une suspicion et ça pourrit la vie du couple.
Bah, évidemment que ça crée une suspicion, encore.
Ben oui, parce que voilà, après. Mais c'est pour ça que tu dis, voilà. Parce que même si c'est qu'une fois un petit coup de canif, après la personne, dès que tu vas passer une nuit dehors pour le travail, etc., la personne, le conjoint va être sur.
Raison.
Mais
au moins, t'es dans une vérité.
Et vous connaissez l'adage, quand on a trompé mille fois. Non, quand on a trompé une fois.
Une personne.
Quand on a trompé mille fois, on peut le refaire une fois.
Mille personnes.
Non, c'est l'inverse. Non,
mille fois une personne, mais on ne peut pas tromper une fois mille personnes,
Non, je sais plus ce que c'est.
Ouais,
dans un instant, on sera avec Catherine Solano, sexologue, qui va pouvoir répondre à cette question. Mais avant cela, Mario est en ligne avec nous, il nous appelle du Gard, Bagnoles sur 16. Bonjour Mario.
Eh bien le bonjour à la belle équipe de RMC et à la talentueuse et subtilissime Mademoiselle Estelle Denis.
Voilà, ça fait plaisir Mario. Ça fait plaisir, ça dépend. Est-ce que vous êtes un homme infidèle Mario?
Alors là, moi c'est le contraire. C'est que moi, je me suis fait... j'étais trompé plutôt par mon ex, par la première femme dans laquelle j'étais amoureux. Et j'étais jeune, j'avais 18 ans.
Ah oui, bon.
Et en vérité, je travaillais pour une entreprise qui faisait de la mise en bouteille de vin en propriété.
D'accord.
Et je faisais des heures de dingue. Je commençais à 4h du matin et je rentrais le soir à 20h. Et des fois, je ne rentrais pas parce qu'on partait partout en France.
Oui.
Et un jour, auquel je ne veux pas rentrer, mais un chantier est annulé, je rentre le soir à 20h.
Aïe.
Et quand je rentre, j'ai surpris mon ex-compagne avec quelqu'un dans la chambre en plein débat.
Oui,
ça doit être dur. Voilà, donc sur le coup, déjà, le monsieur, je ne connaissais pas, donc je lui ai dit quand même, chez moi, partez s'il vous plaît.
Vous êtes resté élégant.
À la dame, que je suis quelqu'un de non-violent. J'ai parlé à mon compagne pendant une heure. Et elle m'a dit, la seule excuse qui m'a sortie, c'était en vérité, c'est que j'étais toujours absent. Sauf que pour les cadeaux, les restos, les bijoux, les fringues, elle était toujours là. Je lui ai offert parce que je l'aimais. Et en vérité, le but, voilà, c'est là le but de la construction du débat, c'est que si elle me l'aurait dit, mais j'aurais été, autant j'aurais aimé ma vie, très bien ma vie, j'aurais démissionné direct pour trouver un autre travail, même si j'étais moins payé.
Pour être bah oui. Voilà. Ah bah donc elle a eu tort, mais je comprends ce que vous dites Mario, mais ça a dû être dur pour vous effectivement. Merci Mario en tout cas d'avoir été.
Bonne journée à vous tous.
Ouais, bonne journée, Mario. Catherine Solano, mais quel bonheur d'avoir Catherine Solano avec nous, sexologue et cofondatrice de la plateforme de télésanté d'Optical. Ça va Catherine?
Ça va très bien, je vois qu'il y a de l'ambiance sur votre plateau.
Il y a beaucoup d'ambiance et je peux vous dire que mon portable chauffe, j'ai beaucoup d'amis qui attendent la réponse à cette question. Est-ce qu'il faut avouer une infidélité à son conjoint ou à sa conjointe Catherine?
Eh ben, écoutez, je pense que ça dépend, mais pas forcément. Parce que vous en avez parlé tout à l'heure, qu'on sait, par exemple, qu'on a bu et qu'on fait une bêtise. En fait, il y a beaucoup de personnes qui ont envie de l'avouer parce qu'elles se sentent mal et qu'elles aiment leur conjoint. Mais en fait, la question, c'est pourquoi je veux l'avouer? Souvent, c'est pour se décharger d'un poids parce qu'on se sent pas bien.
C'est un truc d'égoïste.
Oui, du coup, comme disait un collègue, on balance sa poubelle sur le conjoint. Or, l'autre n'est pas une poubelle. Tant pis, si on a de la culpabilité, on la garde pour soi. Et c'est pas à lui de porter le poids. Parce que, et je connais par exemple un couple comme ça que j'ai suivi. Elle a fait une bêtise, c'est elle qui le dit, hein, parce qu'elle avait bu, elle a couché avec un collègue de travail. Et elle était tellement mal qu'elle l'a dit à son mari qu'elle adorait. Elle pensait qu'il allait comprendre. En fait, il n'a pas compris du tout. Il lui a dit, c'est fini. Et depuis plus de 10 ans, c'est la haine entre eux. Il a réussi à récupérer les enfants quand elle a déménagé. Enfin, c'est la haine qui continue pendant des années. Donc, je me dis, c'est vraiment idiot parce qu'elle se souvenait à peine de ce qui s'était passé, vu qu'elle avait
en plus,
c'était pas important pour elle. Et elle aurait mieux fait de se taire, vous voyez.
Mais Catherine Solano, est-ce que vous avez beaucoup de patients qui viennent vous consulter pour ça, justement, parce qu'il y a eu infidélité dans le couple et qu'ils n'arrivent pas à surmonter?
J'en ai régulièrement, hein, ouais. Et alors, une chose, c'est que je ne n'utilise jamais le mot infidélité. Je dis toujours relation extra-conjugale. Parce que vous voyez,
Ça, c'est comme les non-voyants et les aveugles, hein.
Parce qu'il y a un jugement, quand tu dis infidélité.
Parce que si vous voulez, j'ai eu un patient, il disait toujours l'adultère de ma femme par-ci, l'adultère de ma femme. Ça, c'est religieux. L'infidélité, c'est légal, parce que quand on se marie légalement, on se doit fidélité. La tromperie, c'est moral. Et la relation extra-conjugale, c'est factuel. Oui, et donc, si vous ruminez sur l'adultère, la tromperie et tout, vous vous faites beaucoup plus de mal que si vous dites, bon, il y a une relation extra-conjugale, qu'est-ce qu'on fait?
Enfin, ça revient au même, hein. Excusez-moi.
Non, elle a raison. Les mots sont importants. Elle a raison. Il n'y a pas de jugement dans la relation extra-conjugale.
Les mots sont importants, mais c'est surtout la nouvelle quand il la prend.
Extra-conjugale. Restez avec nous, Catherine, parce que peut-être qu'il y aura des questions de la part de nos téléspectateurs et téléspectatrices. On a Philippe, qui nous appelle de Nevers et qui est éducateur sportif. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour.
Et vous Philippe, vous êtes un peu infidèle quand même. Enfin, je dis un peu...
Un peu, c'est à partir de combien?
Bon, à partir de 1. À mon avis, il s'appelle pas Philippe, il est pas dans la Nièvre, il est pas éducateur sportif. Ça, c'est témoigné anonymement.
Si, c'est Philippe, éducateur dans la Nièvre, oui. Non, un peu, c'est-à-dire que j'ai été toute ma vie infidèle, mais ce qui s'appelle vraiment toute ma vie.
Ah, quand même.
J'ai été marié 2 fois, comme j'ai dit à votre collaborateur, 2 fois, et je suis marié pour la 3e fois. Et la première fois...
Et vous l'avez déjà trompé, la 3e?
Alors, je vous explique, avant d'arriver à la 3e, je vous explique déjà la première. La première, on s'est rencontrés jeunes, et j'étais... Enfin, athlète de haut niveau, je faisais beaucoup, beaucoup de sport. Et j'ai eu beaucoup d'aventures. Et j'ai jamais eu ni de culpabilité. Non, ça faisait... Par contre, je lui disais rien. Et puis, j'ai divorcé. Parce qu'elle y a pris, à la fin, par quelqu'un d'autre. Donc, j'ai divorcé. Deuxième épouse, je lui ai dit, une fois que je suis tombé amoureux de celle qui est devenue ma femme actuellement. Mais j'ai toujours... lorsque je lui ai dit à mon épouse, mon ex-épouse, pardon, que je l'avais trompé, c'était pour partir. Donc, voilà. Et comme
mais ça, c'est pas une infidélité. C'est une histoire d'amour, ça. Bon,
j'avais énormément trompé, on va dire, et donc je vais pas dit toutes mes histoires avant. Et puis donc ma 3e épouse, elle est arrivée comme ça dans ma vie, et elle savait aussi mon parcours. Et donc quelque part, et je suis fidèle depuis 9 ans. Alors, vous allez me dire, je suis vieux maintenant, j'ai 61 ans, donc ça doit me calmer. Non, non, c'est pas ça. C'est qu'on a trouvé une voie qui est le libertinage, mais c'est ce que j'ai dit à votre collaborateur. Je prône pas le libertinage pour être fidèle. J'aurais aimé être fidèle.
Non,
toute
c'est
ma vie,
pas la meilleure manière, mais.
Si je pouvais revenir en arrière, j'aurais aimé être fidèle. Je trouve qu'être fidèle, c'est très beau. Enfin, je trouve. Je l'ai pas été. Et donc c'est comme ça, c'est ainsi. Mais ce qui est paradoxal, avec ma troisième épouse, j'ai voulu au début de notre relation comprendre aussi mon parcours et ma fonction de
fonctionner. Votre façon de fonctionner, ouais.
Et j'ai suivi, enfin pas une psychothérapie, mais j'ai été voir quelqu'un pour me comprendre aussi et de savoir pourquoi j'allais. Voilà, j'ai eu quelques réponses à mes questions. Et puis par rapport à le libertinage, oui, ça a été pour moi source de fidélité, mais c'est pas que ça, parce que c'était je l'aimais et on se parlait beaucoup, comme jamais.
Mais au moins, il n'y a pas de mensonge. Dans cette troisième voie qu'ils ont trouvée, il n'y a pas de mensonge. Il est au courant. On est entre adultes consentants. Donc moi, j'ai pas de problème avec ça. Alors, les fois d'avant, c'est.
Alors, on a perdu Philippe. On le remercie, bien sûr, pour son témoignage. Et il y a une question qui se pose, Catherine Solano. Mm-hmm. Est-ce que l'infidélité, bon, je dis toujours infidélité, ce sera plus simple que relation extra-conjugale, mais est-ce que ça peut être pathologique, en fait? Est-ce qu'il y a des gens qui trompent et des gens qui ne trompent pas?
Ah oui, tout à fait. Il y a des personnes, moi j'ai beaucoup de patients hommes, par exemple, qui me disent « je n'ai jamais trompé ma femme, j'adore ma femme, qu'ils aiment même ma femme, n'a plus de désir, mais moi je veux pas faire l'amour avec une autre femme, je veux faire l'amour avec ma femme parce que je l'aime. » Et sur le coup, j'ai cru que Mario était un patient à moi, mais non, parce que j'ai un patient... j'ai un patient qui me dit « j'ai trompé mes deux premières femmes, mais ma troisième, je l'adore, je ne la tromperai jamais, il la
trompe pas,
et je ne fais pas de libertinage. » Et j'ai aussi un patient qui me disait « moi, j'ai trompé ma femme tout le temps avant, et puis un jour je me suis dit mais pourquoi je trompe ma femme alors que je l'aime, que je suis bien avec elle. J'ai arrêté et depuis je suis bien plus heureux, mais il lui disait pas, et on est bien plus heureux, je l'aime plus, j'ai plus de temps aussi forcément, hein, parce que le temps c'est quand même précieux aussi. Et donc tout existe. J'ai des couples qui sont mariés, qui n'ont jamais de rapport avant leur mariage et qui sont fidèles et qui sont très heureux sexuellement, qui viennent me voir pour des petits problèmes. J'ai un peu de tout, vous voyez. Et alors, je voudrais dire sur le libertinage aussi, c'est que ça n'empêche pas du tout les relations extra-conjugales. Moi, j'ai eu un couple qui pratiquait le libertinage et un jour, monsieur a trouvé au lit sa femme avec un monsieur qu'elle avait rencontré dans une séance de libertinage.
Mais c'est un gros appétit, quoi. Donc, ça, c'est un grand... un autre sujet. Mais Catherine Solano, est-ce que l'infidélité, c'est plus un truc de mec ou un truc de femme, ou est-ce que c'est assez asexué, en fait?
Je pense que c'est asexué, parce que si vous voulez, quand il y a un homme qui trompe sa femme, et bien forcément c'est avec une femme. Ça peut être avec un homme aussi, c'est partagé pour les deux sexes, hein. Oui, tout à fait, ouais. Je pense.
Rémi Barré, tiens, justement, c'est marrant. Vous avez plus de messages d'hommes ou de messages de femmes sur l'application RMC?
J'ai les deux. J'ai par exemple Josette qui nous écrit sur Direct Studio, dit « Il ne faut jamais avouer la tromperie au nom de qui plus est de l'honnêteté. » Voilà. En fait, pour se déculpabiliser, on le disait tout à l'heure, et en même temps, on fait souffrir l'autre. Parfois, le silence est d'or. L'humain a le droit à l'erreur. Quand on déconne, nous dit-elle, on doit assumer. Et garder ça pour soi, assumer.
C'est pas ce que j'appelle assumer, moi.
Benjamin nous dit, ma femme avait donné un coup de canif. Elle n'a rien dit. Je l'ai découvert 7 ans plus tard. J'aurais pardonné le coup de canif, mais c'est impossible de pardonner 7 années de mensonges.
Ah là là, parce qu'elle a rien dit.
Chacun
est différent. Thierry Moreau, est-ce que c'est quand même important, quelque part, de garder un jardin secret, de pas tout se dire quand on est en couple, même si c'est quelque chose d'important, quoi?
Mais encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, et là où je suis pas du tout d'accord avec Emma, c'est que si c'est effectivement un accident, pourquoi faire de la peine à l'autre? Et comme le disait Madame Solano, si t'as fait une connerie, tu la gères et tu l'assumes toi-même. Donc après, les jardins secrets, il peut y en avoir dans plein d'autres secteurs que la vie sexuelle. Mais en revanche, je voulais revenir sur un truc. Il arrive quelquefois qu'on ait des sollicitations moi, il m'est arrivé à certaines périodes de ma vie, quand j'étais assez exposé dans une émission, d'avoir des gens qui vous sollicitent. Et la question qu'il faut se poser, quand on est bien en couple et qu'on est plutôt amoureux de sa femme, c'est est-ce qu'on a envie de se réveiller à côté de cette personne qui vous sollicite là ? Et vous vous dites, est-ce que j'ai envie de me réveiller tous les jours avec cette personne ?
Je crois que c'est pas une histoire de se réveiller tous les jours.
Ça vous arrête tout de suite.
C'est une bonne méthode, j'ai l'impression.
Parce que souvent, on peut trouver quelqu'un de plus jeune, de plus tout ce qu'on veut. Mais est-ce qu'on a envie de passer sa vie avec
quelqu'un ? Oui, mais l'infidélité, des fois, c'est juste une soirée. Est-ce que t'as envie de passer une soirée ?
Mais on rejoint ce que je disais tout à l'heure, le coup de canif. Mais je trouve que se poser la question de savoir est-ce qu'on a envie de se réveiller à côté de cette personne-là, je peux vous dire que ça vous refroidit tout de suite.
Tu sais, sur le jardin secret, attention à ce que ça ne devienne pas un grand parc dont on a perdu la clé.
Non, mais ça, c'est clair.
On est d'accord.
Mais elle a raison. Faut pas que ça soit non plus quelqu'un qui a une double vie, comme je racontais tout à l'heure, et qui ment sur quasiment la moitié de sa vie. C'est plus un jardin secret, c'est un boulevard plein de manifestants. Quoi.
On est avec Tony qui nous appelle de Cergy et qui est chauffeur de poids lourd. Bonjour Tony.
Bonjour Estelle et bonjour à toute l'équipe.
Bonjour. Je remarque quand même qu'on a que des hommes qui nous appellent.
Beaucoup plus honnête.
On ne ment pas nous.
Je n'ai pas d'explication, mais en tout cas, force est de constater que, on n'a eu aucune femme qui a appelé pour témoigner, à part Catherine Solano, bien sûr.
C'est notre
invité. Tony, vous voulez témoigner. Vous avez mis un petit coup de canif un jour.
Ouais, j'en ai mis un. À l'époque, j'étais jeune. Aujourd'hui, j'ai 40 ans. J'avais.
Vous êtes encore jeune.
Ouais, c'est vrai. J'avais 25 ans, à peu près, je crois.
Quelle taille le canif ?
En plus, c'était pas un gros canif, c'était un petit bisou, en fait.
C'est ça que vous appelez un coup de canif ?
Ben, à l'époque, j'étais. Ça m'a.
Perturbé,
voilà, exactement. Ouais. Et je lui ai tout dit. En plus, on devait partir en vacances. Je lui ai dit avant de partir en vacances. Bon, après, bon...
L'ambiance n'était plus la même.
Les vacances, c'était plus pareil. Elle m'a quand même pardonné. Mais par la suite, par contre, elle a eu un coup de canif. Elle a voulu se venger, en fait.
Ah oui, après, c'est infernal.
Et après, voilà, quoi, l'histoire, elle était...
Mais si vous avez fait... Non, mais... Après, le truc, c'est pourquoi est-ce que vous l'avez dit, Tony ? Parce que vous n'êtes même pas allé jusqu'au bout, vous avez fait un petit bisou. Pourquoi vous avez tenu à le dire à votre épouse de l'époque ?
On va dire que c'est l'expérience. Je pense que si c'était à refaire, je ne le referais pas.
Oui.
Franchement, la culpabilité, voilà quoi, ça me rongeait et tout. Donc,
s'est trompé, hein.
Voilà, et donc en fait, vous l'avez fait en fait pour vous déculpabiliser, c'est exactement ce que disait Catherine Solano, mais ça vous a porté préjudice. Merci en tout cas, Tony, d'avoir été avec
nous. Si les femmes n'appellent pas, c'est parce qu'elles sont avec leur amant là en ce moment.
Non, pas du tout, c'est parce que les femmes travaillent. Elles n'ont pas le temps de nous appeler, mais je pense qu'elles écoutent. Moi, j'ai quelques amies féminines, je veux dire, qui attendent avec impatience ce que va dire Catherine Solano. Catherine, c'est important ce qu'a dit Thierry. Est-ce qu'embrasser, c'est tromper ? C'est-à-dire que est-ce que tromper, c'est unique faire l'amour avec quelqu'un d'autre, ou ça peut être des textos, du flirt
Bien sûr, ça peut être plein de choses, mais je veux dire un petit détail qui pour moi est très important en consultation, c'est que quand il y a une relation extra-conjugale, souvent le conjoint qui souffre demande des détails. Qu'est-ce que vous avez fait ensemble ? Et alors, c'est là où il ne faut rien dire, parce qu'il y a par exemple des hommes qui vont dire « Oui, mais si tu me dis rien, j'imagine tout », alors... J'ai tout raconté en détail et là c'est l'explosion, parce que c'est encore pire au niveau jalousie, tension et tout. Donc il ne faut rien raconter, que l'autre n'aille pas imaginer plein de choses et se faire des films dans sa tête, vous voyez.
Oui, mais justement, si vous racontez rien, on se fait encore plus de films.
Ah non, parce que ça reste flou en fait. Tandis que là,
quand il y a du flou, c'est qu'il y a un loup, comme dit Martine Aubry.
Non, mais si vous dites oui, j'ai une relation extra-conjugale, bon voilà, point, je ne te dirai pas plus. Non, plus on donne de détails, plus on alimente en fait les fantasmes et l'imaginaire. Je vous assure, je le vois tout le temps, ça.
Moi, je pense que si on me dit ça, je pense que là, j'allume la lampe.
Ça
va durer des heures.
Vous avez beaucoup de patients qui vous disent j'ai été voir ma femme et je lui ai dit oui, j'ai eu une relation extra-conjugale.
Non, mais les gens ne le disent pas comme ça, mais si vous voulez, quand c'est découvert, il y a des personnes qui disent « Est-ce que tu l'as embrassé ? Est-ce que vous avez fait une fellation ? Est-ce que vous avez fait telle position ? Est-ce que vous avez fait ceci, cela ?» Non, il ne faut pas raconter de détails, parce que ça devient sordide et puis ça alimente encore plus les tensions. Ouais.
Bon, enfin, on a bien compris, Catherine Solano, qu'a priori, fallait pas trop en dire, quoi. Voilà, ça, c'est ça reste la morale de cette histoire. Merci, Catherine, en tout cas, d'avoir été avec nous.
Bonne journée,
sexologue.
Alors.
Bonne journée. Bonne journée, Catherine. Et cofondatrice de la plateforme de télésanté d'Octical. On va voir ce qu'en pensent nos auditeurs et auditrices. Infidélité, faut-il tout dire à son conjoint, Rémi?
La majorité préfère garder le silence. 57% de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux pensent qu'il vaut mieux ne rien dire.
Ah bah, c'est ce que nous a dit Catherine Solano. Donc, on est raccord sur le sujet. Dans un instant, il y aura les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater. Aujourd'hui, il y aura quoi, Rémi, par exemple?
Il y aura notamment une date de Beyoncé, la chanteuse Beyoncé qui vient en France, qui devait faire deux dates au Stade de France. Elle n'en fera qu'une.
Ah bon?
Mais alors, la raison est improbable.
C'est quoi?
Des travaux à la SNCF.
Ah ben, on en parle.
Vous allez comprendre. Okay. Vous allez comprendre.
On en parle dans un instant. Puis bien sûr, RMC s'engage pour vous dans un instant avec Amélie Rosy qu'on tentera d'aider, une jeune footballeuse victime de sexisme. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
14h30 sur RMC, RMC Story. C'est l'heure de vous aider dans Estelle Midi. RMC s'engage pour vous, c'est maintenant.
RMC, Estelle Midi.
RMC s'engage pour vous.
Et nous sommes avec Amélie Rosic aujourd'hui. Et ce matin, c'est un papa en colère qui vous a contacté à l'adresse rmcpourvous@rmc.fr. Il est en colère à cause de sa fille.
Oui, il s'appelle Cédric et c'est le premier supporter archi fan, évidemment, de sa fille Lily. Elle a 10 ans, c'est l'une des meilleures joueuses de son équipe de foot amateur. Elle évolue depuis 4 ans au FC Châteauvillain, c'est en Haute-Marne. Elle est milieu de terrain, c'est le poste qu'occupe actuellement son joueur préféré Antoine Griezmann. Et elle surpasse presque tous ses coéquipiers garçons, à tel point que son entraîneur a voulu la surclasser et la faire jouer en U13 avec les grands, ceux qui ont 2 ans de plus qu'elle. Le médecin du club y était favorable, mais ils se sont heurtés à un mur.
C'est une de ses meilleures joueuses, et donc son entraîneur voulait la faire jouer en équipe au-dessus. Et donc du coup, le district a dit, bah, vu que c'était une fille, elle n'avait pas le droit. J'en ai juste ça comme réponse. Bah, c'est parce que c'est une fille. Bah, c'est la loi. C'est comme ça, la loi de la FFF.
Ouais, c'est pas juste. J'étais un peu énervée parce que mon rêve, c'est d'être footballeuse professionnelle.
Incroyable.
Ouais, alors c'est l'article 155 des règlements généraux de la Fédération française de football sur la mixité et il est très clair, les filles ne peuvent pas être surclassées alors que les garçons, oui. Une inégalité qui est intolérable, incompréhensible pour Cédric.
Qu'on nous dise, elle peut pas parce que c'est une fille, c'est pas normal. Alors, c'est moi, ça me choque. Tous les personnes que j'ai contactées, bah, en fait, eux, ça les choque pas. Eux, ils disent, là, c'est une fille. Je trouve ça vraiment incroyable et c'est surréaliste.
Amélie, pourquoi une telle différence de traitement entre les filles et les garçons? J'avoue, je comprends pas bien là.
Raison médicale. Selon la Fédération française de football, il serait en fait trop dangereux de faire jouer des filles avec des garçons plus vieux. C'est comme ça qu'elle se justifie. Question de morphologie, de taille et de poids. Sauf que cette règle, elle est générale et absolue. Peu importe le gabarit de la joueuse et son niveau, ce qui est quand même un peu dommage. En l'occurrence, oui. Lily, elle est plus grande et plus forte que la majorité de ses coéquipiers garçons. Mais aucune dérogation n'a jamais été accordée par la fédération. Alors ses parents, ils ont tout tenté, ils ont lancé toutes les voies de recours, ils ont écrit à la FFF, à la Défenseur des Droits, au gouvernement. Dans un courrier du 28 septembre dernier, Isabelle Rome, la ministre chargée de l'égalité femmes-hommes, leur a répondu en assurant qu'elle comprenait la déception de Lily. Rien de plus, car en attendant, la joueuse est toujours bloquée en U11 et c'est pour ça que son papa a fait appel à nous.
Alors évidemment, Amélie, vous avez contacté la Fédération Française de Football et que vous a répondu cette fédération?
Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est que la FFF nous apprend que Lily, eh bien, elle n'est pas la seule dans son cas à vouloir être surclassée. En début de saison, une ligue régionale, une autre, ils n'ont pas voulu nous dire laquelle, a également demandé à la fédération de faire évoluer ce règlement. Et ils ont obtenu en partie gain de cause, puisque c'est tout frais, le 7 janvier dernier, la FFF a modifié son article 155 sur la mixité. Et donc, à partir de la saison prochaine seulement, les jeunes joueuses pourront être surclassées, mais attention, d'une seule catégorie, donc d'une seule année, et pas de deux, ce qui était ce que demandait Lily. Ouais. Donc même Lily, en fait, dans tous les cas, elle ne serait pas concernée. Et puis de toute façon, ça reste une demi-victoire pour elle, puisque pour cette saison-là, ben, c'est fichu. Donc c'est que à partir de la saison prochaine. Le ministère des Sports nous a aussi répondu un peu tardivement, mais nous a répondu hier soir en nous affirmant de son côté que des dérogations sont tout à fait possibles aux règlements généraux de la FFF, mais visiblement, personne ne les a jamais utilisées. La fédération ne veut pas le faire. Et le ministère nous dit qu'il est favorable à ce que dans ce dossier, comme dans les autres du même type, seules les qualités sportives et physiques des jeunes joueuses soient prises en compte et non leur genre. Voilà ce que nous répond le ministère. Et nous, de notre côté, vous l'avez bien compris, on va continuer à la suivre, la petite Lily, parce qu'on ne sait jamais. On a peut-être rencontré, sans le savoir, une future championne du monde. On ne sait pas. Hein.
Exactement.
Hein,
qui sait. Ce serait bien.
Et voilà.
L'équipe de France féminine qui n'a jamais remporté la Coupe du Monde.
Exactement.
Elle attendait Lily.
Exactement, je vous le dis, c'est elle.
Merci beaucoup, Amélie Rosic. Tous les jours, RMC s'engage pour vous vers 14h30 dans Estelle Midi. Et puis à retrouver, bien sûr, en podcast sur l'application RMC, sur rmc.fr et sur vos plateformes de téléchargement. On parle de quoi demain, Amélie ?
Eh bien, on va essayer d'aider un auditeur qui reçoit tout son courrier, sauf les chèques énergie, et il en a bien besoin.
C'est embêtant.
Mais voilà.
Alors que c'est surtout ce qu'il aimerait recevoir, j'imagine.
Exactement.
Eh bien, on essaiera de l'aider demain. Merci à vous, Amélie. Et puis si vous aussi, vous avez besoin d'aide, vous n'hésitez pas, rmc.fr et Amélie et toutes ses équipes vous répondront. Allez, dans un instant, les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. On revient sur l'affaire PPDA notamment. À tout de suite.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
C'est la dernière partie d'Estelle Midi. On est ensemble jusqu'à 15h avec Rémi Barré, Thierry Moreau, Emmanuel Dancourt et Fred Hermel. Et tout de suite, ce sont les informations qu'il ne fallait surtout pas rater aujourd'hui, les immanquables.
RMC, Estelle Midi,
les immanquables.
Et on démarre avec la parution du jour, Rémi.
Le livre de Romain Verlet, PPDA, Le Prince Noir, est bien sorti aujourd'hui, malgré la colère d'accusatrices de l'ex-présentateur. L'une d'entre elles a signé en justice Fayard, l'éditeur du livre, pour atteinte à la vie privée. Elle reproche à l'auteur d'avoir révélé tous les détails de ce que lui a fait subir Patrick Poivre d'Arvor quand elle avait 19 ans, en la nommant et sans lui en avoir parlé au préalable. Elle ne l'a d'ailleurs jamais rencontré, l'auteur.
Et ça pose évidemment souci, ce livre. Emmanuel Dancourt, vous faites partie de ces femmes qui avaient porté plainte contre, oui, contre PPDA. Vous êtes également la présidente de MeToo Media. C'est vrai qu'on se demande comment, en fait, il peut y avoir un livre qui parle, je veux dire, de quelque chose d'aussi intime que le viol de quelqu'un, sans avertir la personne qu'on va donner son nom, quoi.
Alors, je vais juste rappeler quelques faits antérieurs. Romain Verlet, pour vous situer, c'est un journaliste qui fait du documentaire à la télé, qui avait signé ce complément d'enquête qui est paru le 28 avril 2022, qui a été la plus grosse audience de complément d'enquête jamais réalisée, qui était vraiment un réquisitoire implacable contre PPDA. Ce journaliste n'a pu mettre que 30% des infos qu'il avait dans cette enquête. Et donc, très envie, parce que beaucoup de gens sont venus le voir aussi après l'enquête, des sources, etc. Donc, très envie de poursuivre ça dans un livre. Donc, le livre paraît, tu as donné
ce que vous trouviez très bien, titre, d'ailleurs, Emmanuel. Hein, ce que vous trouviez formidable.
Alors, et je vais vous dire que le livre, il est incroyable. D'accord. C'est une enquête implacable aussi, extrêmement fouillée. Moi, je suis vraiment impressionnée par le boulot qui a été fourni. Il y a quand même des chapitres très, très forts. Enfin, je pense que c'est un chapitre sur la fille de PPDA, sur Solène, qui est quand même totalement fou. On apprend des tonnes de choses que moi, je ne savais pas, alors que je suis quand même directement concernée en tant que victime de PPDA et présidente de MeToo Media. Mais effectivement, dans cette charge de travail, dans les 100 interviews qu'il a pu mener, il y a une erreur. Il y a une erreur sur une victime que je connais bien, puisqu'elle est adhérente de MeToo Media, qui effectivement était parue, avait témoigné dans Mediapart, avait témoigné à TF1, mais témoigné en disant « j'ai été victime ». D'un viol de PPDA, mais elle n'avait jamais voulu aller plus loin.
Elle n'avait pas,
donné les détails. Et l'erreur, c'est que là où moi j'ai raconté partout ce qui m'est arrivé, on est plusieurs victimes à avoir raconté partout ce qui nous est arrivé, ça devient de la donnée publique. Ouais. Il a parfaitement le droit de reprendre ça, je veux dire, c'est pas paru dans tous les quotidiens, les télés, etc. Ici aussi, j'avais témoigné d'ailleurs. Et Justine ne l'avait pas fait. Et donc, cette victime, elle a le droit, hein. Elle a parfaitement le droit d'attaquer en disant « on a révélé mon viol, c'est quand même violent ». Et moi, je comprends tout à fait.
Les détails.
En réveillant les détails.
Elle était connue. Voilà.
C'est vrai que
c'est les auditions à la police, en fait.
C'est 13 lignes au milieu de 400 pages. Mais je comprends que ça la choque. Donc, elle a parfaitement le droit d'attaquer le livre avant parution. C'est ce qu'on appelle un référé. Donc, c'est une comparution immédiate. Hein. L'attaque, elle est à 20h la veille au soir. À 14h, tout le monde est au tribunal. En huis clos. Ça a été jugé en huis clos. Et ce qui a été décidé, c'est que, vu l'intérêt général de ce livre, et tout en reconnaissant le préjudice de cette victime, vu l'intérêt général de ce livre, le livre est bien en librairie, partout. Dans vos livres. Voilà ce qui s'est passé. Mais ça pose effectivement une question de l'accès aux sources, puisque s'il a pu trouver ce témoignage, c'est qu'il a eu accès au dossier, mais qui circule dans toutes les rédactions parisiennes. Je veux dire, tous les journalistes l'ont, hein, ce dossier. D'accord. Mais quel droit on a ou pas de mettre dans un livre une audition de police ? Quand c'est de la donnée publique, il n'y a pas de souci. Quand ça n'est pas, c'était un peu plus touchy, quoi.
Oui. Fred Hermel. Ouais, alors par souci de transparence et d'honnêteté, Fayard est mon éditeur. Ouais. C'est l'éditeur qui va publier mon roman au mois de mai. Je dis ça parce que je veux être honnête.
Non, mais t'as raison.
Alors j'ai lu le référé de la juge. C'est une juge.
C'est une juge.
C'est une juge qui a. Là. Ouais. Et elle défend le droit à l'investigation, le droit à l'enquête.
Tout à fait.
Et l'utilisation des PV, des procès-verbaux, de déclarations devant la juge, devant la police. Ben, c'est la base de toutes les enquêtes de toutes
mais
les enquêtes.
Mais quel est l'intérêt de donner le nom de cette victime? En fait, ça n'aide pas à l'intérêt du livre.
Alors, c'était aussi donner le nom qui était le problématique.
Le truc, c'est que la justice considère, et Fayard considère, et l'auteur Régis Verlet qui a fait un travail formidable, un travail formidable, c'est que c'était une manière de comprendre le modus operandi de
mais ça, il n'y a pas de problème, mais tu pouvais dire une plaignante, tu n'étais pas obligé de
dire. Oui.
Non, mais tout à fait.
Oui, il y a d'autres personnes qui témoignent dans ce livre, qui n'ont jamais témoigné, de la vie, et là, l'anonymat était respecté, c'est-à-dire qu'il n'a cet auteur
il a fait l'erreur.
Il n'a pas donné le nom de quelqu'un qui n'était pas connu. Cette personne avait témoigné, notamment
à TF1.
Mais après tous les gens qui ont lu s'accordent à
quand
dire
un journaliste vous appelle, répondez-lui. Ça permet de discuter, de délimiter les limites. Moi, j'ai un chapitre sur moi dans ce bouquin. Vous verrez, on en a discuté ensemble.
Alors, cette personne dit qu'elle n'a pas rencontré l'auteur, mais elle l'a eu au téléphone.
Ouais. Nous allons passer aux difficultés du jour.
Les difficultés du jour, le chausseur André est à nouveau en difficulté. Le tribunal de commerce de Nanterre a placé en redressement judiciaire début février. L'entreprise française, l'enseigne de chaussures, avait déjà subi le même sort en avril 2020 dans le contexte de la crise Covid. Il y avait eu une reprise en avril 2020. Mais là, c'est l'ensemble de l'entreprise qui était le repreneur, qui est en redressement judiciaire.
Et ça, le temps pour les marques françaises d'habillement, Thierry. Camaïeu qui a mis la clé sous la porte, Pimki, redressement judiciaire, Gosport, redressement judiciaire, André.
Dans certains cas dont on avait parlé ici, c'était des erreurs stratégiques, c'est-à-dire multiplier les magasins et les rachats d'emplacements alors que ce n'était pas plutôt la tendance. Sur André, je crois qu'il y a, quand on écoute un petit peu les personnes qui connaissent le dossier, notamment les délégués syndicaux, ils expliquent que la crise de Covid a fait extrêmement mal et qu'en fait, le soutien qu'il y a eu pendant le Covid n'a fait que repousser une échéance qui finalement s'est avérée être inéluctable là cette fois-ci. Et puis aussi, je pense qu'il y a une modification des comportements. Aujourd'hui, moi, dans mon entourage, mes enfants, par exemple, le commandent par Internet, essayent, quand la paire ne va pas, renvoient.
C'est pas très écolo,
et ne vont plus. C'est pas moi.
Non, mais.
Et renvoient si la paire ne convient pas. Et je pense que c'est une façon de consommer aujourd'hui l'habillement et notamment les chaussures qui va se répandre au détriment de marques mythiques. Parce que moi, André, j'ai connu ça depuis tout petit.
Oui, mais André, marques mythiques, c'est vrai que c'est des marques qui ont des dizaines et des dizaines d'années. Mais Camaïeu, Pimki,
il faut avoir pris le pli du
c'est
numérique.
C'est pas une nouvelle marque, quoi.
Non, mais il faut avoir pris le pli du numérique et beaucoup ne l'ont pas fait.
Ah, mais en plus, André, je suis pas sûr que ce soit une marque de jeunes, quoi. Enfin, c'est plutôt des femmes de 50, 60 ans qui vont.
Ça peut se rajeunir une marque, hein. Il y a plein de marques qui se rajeunissent.
Ouais, mais ça a quand même une image. Toi, tu connais André, Emma, moi aussi.
Mais parce qu'on est à plus de 40 ans.
On a pas 20 ans. On a plus de 40 ans.
C'est vrai que moi, ça m'attriste parce que c'est vraiment notre enfance aussi. Voilà, parce que c'est une marque populaire, c'était pas cher, André. Enfin, c'était la marque. Des familles moyennes, et voilà, c'est pour ça. Donc c'est triste, outre bien entendu tous les gens qui vont se retrouver à la rue. C'est un petit peu notre patrimoine et notre enfance qui s'en va. Les entreprises sont collées aussi à l'histoire
Et tu sais, quand tu circules dans une galerie commerciale ou dans les centres-villes, tu vois les magasins, c'est Camaïeu, et il y a des photos des employés qui nous disent au revoir, il y a des têtes, on vous a aimé, nos clients vous remercient. C'est poignant, quoi. Et les rideaux sont encore baissés, les devis sont pas, les baux, pardon, ne sont pas encore repris. C'est poignant, vraiment.
Et là, c'est vrai que ça commence à faire beaucoup dans ce secteur de l'habillement, notamment féminin. L'annulation du jour.
Vous reconnaissez
Beyoncé.
Les billets pour le concert du vendredi 26 mai prochain au Stade de France se sont arrachés hier en moins d'une heure face à la demande prévisible. Une deuxième date avait d'ores et déjà été envisagée le lendemain, mais n'a pas pu être organisée. En cause, des travaux à la SNCF. Travaux menés sur la ligne B du RER qui impose d'interrompre la circulation des trains en journée, en soirée et pendant certains week-ends entre janvier et mai 2023, dont la date du 27 mai. Alors, sur les réseaux sociaux...
sur les réseaux sociaux, immédiatement, les gens se sont un petit peu acharnés sur Valérie Pécresse, qui est responsable des transports, présidente de région Île-de-France, sauf qu'elle a répondu en disant que, en remettant la faute sur le producteur de la tournée de Beyoncé, puisque les dates des travaux de la SNCF sont connues depuis 2 ans.
Oui, enfin, alors à mon avis, le mec, il est aux États-Unis, il a autre chose à faire que de se dire, tiens, est-ce qu'il y a des travaux à la SNCF?
Je veux dire, il peut mandater quelqu'un en France pour se renseigner là-dessus.
Mais non, mais en fait, il a vu que la date était libre, il a coché, je pense.
Excusez-moi, il y a le RRD, il y a la ligne 13, la ligne 12, il y a le tramway 1, le tramway 8. Donc il y a quand même des voies d'accès au Stade de France en dehors du RERB. Donc est-ce qu'il n'y a pas une autre raison, tout simplement,
que ça se remplissait pas comme il voulait?
Non, je sais pas. C'est une raison de qui avait peut-être pas envie de rester une journée de plus, voilà. Je ne sais rien. Mais ça me paraît bizarre que pour cette simple raison du RERB en travaux, ce concert soit annulé. Je comprends pas.
Non mais là, pour le coup, effectivement, c'est le principal moyen de locomotion qui mène au Stade de France, le RERD. Et peut-être qu'ils ont quand même été échaudés par la finale de Ligue des Champions entre Real et Liverpool.
Il y avait une grève.
Et ils se sont dit, oulala,
il y avait une grève sur le RER, ce qui avait provoqué certains problèmes.
Exactement, et ils se sont dit, vu l'engouement, parce qu'encore une fois, Beyoncé, ça doit être celle qui remplit le plus facilement en concert. Oui, ça nous étonne pas que tu n'écoutes pas Beyoncé. Enfin bon, bref, on peut rien faire, tu vois.
Après, t'es pas dans la cible.
Mais c'est quand même. C'est quand même pas une très belle image de la France, Emmanuel Dancourt.
Oui, non, mais je cherche moi aussi, comme Thierry, je trouve la raison tellement simpliste, tellement bizarre, tellement pas suffisant. Je me dis, il y a forcément un loup.
Mais c'est ça.
C'est flou.
Je suis d'accord.
Et quand c'est flou,
non, mais si t'as trop de gens qui s'agglutinent dans des rames, le RERB, et ben ça pose souci, comme ça avait posé des soucis lors de la finale de la Ligue des Champions. Et donc, chat échaudé, craint l'eau froide.
Il y a une autre date.
Thierry.
Quand c'est flou.
Ils auraient pu prendre le jour d'avant, mais peut-être qu'il était pris par quelqu'un d'autre.
À mon avis, il y a un truc qui nous échappe dans cette histoire.
Et ben écoutez, nous allons. En tout cas, le 26 mai.
Pour une fois, c'est pas la faute de cette.
Non, mais la date du 26 mai, elle est déjà pleine. Non,
elle est pleine.
Ah oui, parce qu'il n'y a pas de travaux le 26 mai.
Mais c'est ça.
Mais il y en a le 27.
Voilà, ça tombe mal.
Oui, c'est ballot.
Le Zénith de Dijon est libre, je crois.
Oui, on lui en parlera bien. Je pense qu'elle va adorer cette proposition. Les ventes du jour.
Avec 147 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur l'année 2022, l'e-commerce français affiche une croissance annuelle de près de 14%. Une tendance en trompe-l'œil, toutefois, parce qu'elle est tirée par les transports et les services. L'e-commerce, c'est aussi lorsque vous achetez un billet de train
ou des vacances
sur Internet, ou des vacances. Les ventes de produits en ligne, donc là on parle des produits achetés des vêtements par exemple ou de l'électroménager, elles enregistrent les ventes en ligne une baisse historique de 7%. En fait, c'est un retour à la normale après le coup d'accélérateur des années Covid.
On a quand même l'impression, Fred Hermel, qu'on est en train de changer d'air, que la surconsommation c'est fini quoi.
Oui, après, moi je vois ce chiffre, moyenne par Français 3500 euros. Moi je suis largement en dessous de la moyenne.
Ah
bon ? je trouve ça beaucoup.
Tu mets tes vacances ? Tu mets tes vacances d'été, un mois de vacances.
Mais 3500, ça me paraît.
Ça fait 300 par mois.
Je vais faire la moyenne avec toi parce que moi, je suis très au-dessus de ça.
Ah bah oui,
regarde, tu commandes la révision de ta voiture. Maintenant, tu peux le faire sur
Puis Doctolib, c'est compliqué.
Tu prends ta commande via Internet, tu peux payer à l'avance et tu vas faire ta révision.
Tout comportement marchand qui passe par Internet.
Pendant le Covid, automatiquement, ça a grimpé de manière. Depuis, il y a une baisse. En fait, ça se régule. Ouais. C'est plutôt normal. Malheureusement, il y a des emplois qui ont été supprimés. Des emplois qui avaient été créés, notamment chez Amazon, pendant le Covid, qui ont été supprimés. Mais ce qui est terrible, c'est que ce télescope, les deux informations d'André qui ferme et de ses records de vente sur Internet.
Oui, mais les produits baissent de 7%. Ça veut dire en fait qu'on consomme différemment, ça c'est sûr.
Oui.
Mais en revanche, on consomme moins de ce qu'on appelle de produits, c'est-à-dire de vêtements, de ça. C'était les soldes. Je ne sais pas si vous êtes un peu baladé, mais les magasins sont vides.
Comme avant.
Les magasins sont vides. Alors on peut dire c'est Internet. Mais en fait, non, c'est même pas Internet parce que ça baisse de 7%. Donc c'est quand même un changement de consommation. On achète moins qu'avant.
C'est exactement l'analyse que tu fais. C'est-à-dire on est sur une mutation mais qui va durer plusieurs années. On est sur une mutation. Je pense que le Covid a bien accéléré les choses quand même. Mais c'est vrai que pour quelqu'un comme moi qui vit à 30 km d'une ville et qui suis à la campagne, très clairement, et puis toujours dans les transports, etc., etc., je participe, mais amplement à ce phénomène, mais très, très au-dessus de toi. Et je pense que ça ne va pas s'arranger. On va aller de plus en plus vers moins de retail, moins de magasins en physique, ça veut dire. De plus en plus, on va aller vers ça. Ça paraît.
C'est dommage.
C'est dommage. Et en même temps, les gens aiment bien malgré tout le physique. Donc c'est pas. Ah oui,
c'est pour ça. Parce
c'est
que...
pas pour maintenant.
Mais ça va bénéficier aux grands groupes, évidemment. Ça, c'est les géants d'habillement qui vont bénéficier de tout ça.
Il y a aussi une question de pouvoir d'achat, hein, faut pas se leurrer.
De quoi de
pouvoir d'achat. Que ça baisse aussi. Alors qu'on ait un vent de l'histoire qui fait qu'on commande plus par Internet, ça c'est évident, tu en as parlé. Mais le fait qu'il y ait une baisse globale, c'est parce que les gens, ils n'ont pas forcément d'argent, que ce soit pour acheter pour Internet ou aller dans les magasins.
Très clair. Il y a un truc horrible.
Et d'où l'essor de Vinted.
Et voilà. Oui, voilà. Les secondes mains.
Un truc horrible.
Et en plus, plus écolo. Donc, exactement. En plus, c'est aussi le vent de l'histoire.
Il y a un truc horrible qui se passe, et vous en parlez avec des commerçants de fringues ou de chaussures, sont des gens qui vont essayer le produit en magasin pour être sûr de la taille et qui, après, l'achètent
sur Internet moins cher.
Parce que c'est moins cher. Ça, c'est horrible.
C'est horrible, mais si les magasins s'adaptent,
c'est horrible. Tu fais ça pour l'électroménager, tu fais ça pour plein de trucs.
Oui,
quoi.
Évidemment.
C'est la loi du marché. Hein.
Tu vas dans une grande enseigne et qu'elle est, j'ai n'importe quoi, à 250 et que sur Internet, il y a un rabais et que tu peux l'avoir à 210, bah, je suis désolée.
Mais c'est exactement ça. Internet, tu vas chercher le conseiller en magasin chez Darty, chez Boulanger, je ne sais pas où. Et après, tu commandes sur Internet moins cher.
Pour les gens qui
vont. C'est beaucoup l'électroménager.
Et sur les hôtels, tu peux par exemple te servir des plateformes. Tu appelles l'hôtel derrière et tu dis sur telle plateforme, ils me font tel prix. Est-ce que vous et souvent ils s'alignent et comme ça tu voilà mais tu as quand même ta ristourne. Mais il y a pas de raison de payer plus cher en fait, Fred.
Non, c'est pas question de payer plus cher, mais de demander un service à quelqu'un qui va te sortir la robe, qui va te la faire essayer, etc. Et après tu vas l'acheter ailleurs. Donc
mais tu crois qu'ailleurs elle sort de ton écran ta robe, il y a toujours quelqu'un qui va être la chercher quelque part.
Bon, heureusement je reste là pour défendre le petit commerce.
Bon, on va terminer avec les préférés du jour.
Decathlon, la Fnac, Picard sont les enseignes préférées des Français en 2022 selon le classement annuel de la société spécialisé au CSC. Le géant américain du e-commerce, en revanche, Amazon, qui enregistre pourtant de très bons résultats en France, ne figure toujours plus dans le top 10, comme c'est le cas d'ailleurs depuis 2020 et la crise Covid.
Donc c'est Decathlon en 1 ?
Decathlon en 1, la Fnac en 2 et Picard en 3.
Ah oui, quand même.
Moi, je ne vais jamais chez le premier, je ne vais jamais chez le troisième, mais j'aime beaucoup le deuxième, la Fnac.
Pareil. Moi, je vais beaucoup chez le troisième. Hein.
Pareil, d'accord. Je vais jamais chez le troisième et jamais chez le premier.
Oui, mais tu connais les marques. C'est les marques qui te parlent.
Je vois pas le côté affectif.
Non.
Alors, moi, j'aime pas le sport, donc Decathlon, ça.
Oui, ça, ça, on se doute. Affectif, ouais.
Mais le côté affectif qu'on peut avoir avec Picard.
Mais tu vois, en 4, il y a Leroy Merlin et en 5, il y a Icar.
Leroy Merlin,
ah ben Leroy Merlin, oui, parce que je bricole beaucoup à la campagne. De toute façon, on a toujours un truc à bricoler. Donc,
Et puis la Fnac, c'est.
Il y a Ikea, il y a Sephora.
Culture, quoi.
Bon, on va terminer là-dessus et on va rejoindre l'une des grandes marques d'RMC, bien sûr.
Ah bah oui. C'est Vincent Roy. Une des marques préférées.
Quelle marque ?
Peut-être la marque.
Vincent Moscato. Le super Moscato Show. Et toi, Vincent ?
Ben, impeccable, tranquille. Ah bon, bien sûr, on va parler de l'OM, le 8e de Coupe de France, entre l'OM et le PSG.
Bien sûr.
Est-ce que l'OM a besoin d'un titre cette année, quand même? Parce qu'il
tourne. Ce serait bien.
Soit championnat, soit Coupe de France, ils ont besoin de ramasser quelque chose pour avoir une saison réussie. LeBron James, vous avez vu ça, LeBron James, il a arrêté la partie.
Meilleur marqueur.
38 390 points en carrière.
Énorme.
C'est le record de l'histoire. Mmh. Et puis, notre grand débat, c'est bien sûr un débat terrible, Total, qui fait 20 milliards de bénéfices. Pourquoi pas m'en donner un ou deux? Voilà. Oui, pour ou contre. Ah non, ne rigolez pas. Pourquoi m'en donnerait pas un ou deux, 20 milliards? Moi, ça va me faire la différence, mais eux, ça me fout.
On en a parlé à 13h, fallait appeler au 32-16, hein, Vincent.
Oh, 20 milliards, c'est bon.
Appel total.
C'est vrai que c'est pas mal, ça fait rire.
Moi, je rachèterais RMC, BFM, et je vous couperai les salaires en deux, tu vois. Rien que pour le plaisir.
On reconnaît bien sûr votre largesse d'esprit. Vincent Moscato, le super Moscato Show, c'est tout de suite. Et nous, on se retrouve demain dans Estelle Midi, midi 15h. Salut.